Donc, lors de la première séance du 15 septembre, donc, nous nous sommes demandé donc, à quelles conditions la tolérance est concevable. Si par tolérance, on entend cette disposition qui permet de reconnaître à autrui le droit d'exprimer des convictions, des opinions que je ne partage pas, avec lesquelles je suis en désaccord. Donc nous avons montré que la tolérance n'est concevable qu'à la condition que les fidèles des religions qui existent dans une société donnée appréhendent les dogmes de leur religion comme des vérités que seule la conscience individuelle peut reconnaître ou ne pas reconnaître. C'est-à-dire que pour qu'il y ait acceptation de la pluralité des croyances religieuses, il faut que les uns et les autres admettent qu'il y a une contingence des options religieuses, dans la mesure où elles dépendent d'une adhésion libre et d'une conviction intérieure. Donc contingence, c'est-à-dire que cette croyance, ma croyance, n'est pas, bien sûr, nécessairement partagée. Notre problème, ce soir, sera celui de savoir à quelles conditions la tolérance est réalisable. Parce que s'il est vrai, comme nous l'avons dit, que la tolérance n'a de sens que dans le respect de la liberté de conscience des individus, ben suffit-il d'affirmer cette liberté de conscience pour assurer son existence, pour assurer son respect? Si l'essentiel consiste dans la sincérité de la conviction, c'est ce que nous avons dit, ben comment s'opposer aux fanatiques qui lui aussi se sent obligé, par sa conscience, d'égorger celui qu'il juge hérétique, parce qu'il pense que c'est là le moyen de se rendre agréable à Dieu. Si l'on fonde donc la tolérance sur la liberté de conscience, on risque de s'enfermer dans une contradiction insoluble, car la liberté de conscience pourra aussi bien être invoquée par celui qui persécute. Alors, la tolérance est-elle réalisable, en effet, si le persécuteur peut tout autant qu'un autre faire valoir la sincérité de sa conviction pour persécuter? Alors, le philosophe Pierre Bayle, dont je vous ai déjà un petit peu parlé, qui proclame les droits de la conscience errante, eh bien, ce philosophe est parfaitement conscient de la redoutable difficulté à laquelle il s'expose en proclamant ses droits. Et dans un texte qui est le supplément de son commentaire philosophique sur la tolérance, qui est écrit en 1695, enfin bon, si je ne m'abuse, eh bien, voici ce qu'il écrit. Il est parfaitement conscient de la difficulté, et donc voilà ce qu'il écrit. Vous avez en page 4, si vous voulez, le texte de son questionnement. Bon, c'est très court. Hein, c'est très court, mais ajoutera-t-on, si ceux qui sont dans cette erreur y sont de bonne foi, il s'en suivra, selon vos propres principes, qu'ils ne pécheront point, ni en cela, ni en persécutant, effectivement, c'est sans doute l'instance, comprenez l'objection, c'est sans doute l'objection la plus embarrassante qu'on me puisse faire. Et il s'adresse à cette objection. Donc, effectivement, on aura compris que le même principe, c'est-à-dire la sincérité du cœur, le même principe peut tout justifier, aussi bien la tolérance que le fanatisme. Alors, pour résoudre ce problème sur le plan pratique, Bayle s'en remet à l'autorité politique. Elle seule peut être en mesure, selon lui, de mettre en œuvre la tolérance et d'empêcher concrètement les désirs de persécution de se traduire en actes. Mais on mesure ici combien cette solution est fragile. Parce que si l'autorité politique ne veut pas mettre en œuvre la tolérance, comme c'est le cas en France avec Louis XIV, eh bien si elle impose une religion par la contrainte, ben il n'y a pas grand-chose à faire. Il n'y a rien à faire. Donc vous voyez que dans cette conception, la liberté de conscience est suspendue au bon vouloir du prince, à son sens de l'équité. Mais rien concrètement ne garantit sa réalisation. Et effectivement, elle n'autorise pas pour Bayle un droit de contestation, un droit de résistance à l'oppression. C'est-à-dire que autant Bayle est assez audacieux sur le plan de la réflexion morale, autant il est plutôt conservateur sur le terrain politique. Et sur ce point, il est assez d'accord avec le catholique Bossuet. Pour justifier l'obéissance au pouvoir monarchique absolu, il se réfère, comme Bossuet, à l'épître 13 aux Romains, qui est très souvent citée, l'épître 13 aux Romains de saint Paul, où saint Paul déclare « Obéissez aux puissances, toute puissance vient de Dieu ». Donc vous voyez que Bayle est loyaliste, il ne remet pas en cause la monarchie absolue. Et il refuse le principe d'une souveraineté populaire, car pour lui, évidemment, ce principe est un principe qui conduit à l'anarchie. Donc si l'on veut trouver un examen des conditions politiques qui permettent à la tolérance de se réaliser, il ne faut pas chercher du côté de chez Bayle. C'est plutôt dans l'œuvre de John Locke, philosophe anglais, dont vous pouvez trouver l'œuvre en Garnier Flammarion, voici l'ouvrage. Donc c'est plutôt dans cette œuvre que vous trouverez une réflexion sur la question. Alors, l'œuvre à laquelle ici je fais référence, c'est la lettre sur la tolérance, qui a été publiée en Hollande en 1686. Alors c'est à la lecture de ce grand texte, qui est assez vivifiant, qui est très bien écrit, qui est traduit d'ailleurs à son époque par un grand protestant qui s'appelle Jean Leclerc. Donc c'est un texte assez vivifiant. Vous avez peut-être déjà un peu lu le texte, c'est un texte assez vivant. Donc c'est à la lecture de ce grand texte que je vais ce soir surtout m'attacher. Alors, comme Bayle, Locke affirme le caractère inviolable de la conscience. Et c'est d'abord pour lui, d'un point de vue moral et religieux, qu'il faut vouloir la réalisation d'un régime de tolérance civile. C'est d'abord de ce point de vue qu'il faut vouloir la réalisation d'un régime de tolérance civile. Parce qu'en garantissant l'expression de la pluralité des croyances religieuses, ce régime est le seul qui soit en mesure de donner à chaque homme la liberté indispensable à la recherche de son salut, à la recherche de la voie qui lui est propre et qui permet évidemment de viser le salut, le salut de son âme. Alors il ne s'agira pas pour autant d'en rester à une réflexion morale. Locke ne va pas en rester à une réflexion morale, mais il s'agira de réfléchir aux conditions institutionnelles qui permettent de réaliser le régime de tolérance, un régime de tolérance. Alors Locke est là encore parfaitement conscient des contradictions insolubles auxquelles expose la revendication de la liberté de conscience. Parce que s'il est possible d'invoquer sa conscience pour ne pas obéir à une loi, eh bien aucun ordre politique n'est réalisable. Aucun ordre politique n'est réalisable qui puisse garantir la paix civile, la coexistence paisible des citoyens. Donc s'il suffit effectivement d'invoquer sa conscience pour contester les lois, aucun État ne peut subsister. La paix est impossible. Donc on ne peut pas faire, voyez-vous, de la conscience la mesure de l'obéissance civile, ou sinon, à ce compte-là, aucune société ne peut se maintenir. Donc ce n'est pas en restant sur le terrain de la liberté de conscience, sur le terrain au fond de la subjectivité, que l'on va pouvoir trouver le fondement objectif de l'obéissance civile, que l'on va pouvoir définir la limite qui caractérise l'intolérable de manière objective. Et en tout état de cause, il paraît nécessaire donc d'examiner rigoureusement la fonction exacte de l'État, la fonction exacte de l'Église, pour sortir des arguments sophistiques des uns et des autres qui justifient la persécution, tantôt au nom de l'intérêt public, tantôt sous le prétexte de la religion. Et je cite un petit passage de Locke, hein, où je ne l'ai pas photocopié, mais voilà ce qu'il écrit, juste avant d'aborder cette analyse. « Je crois qu'il est d'une nécessité absolue de distinguer ici, avec toute l'exactitude possible, ce qui regarde le gouvernement civil de ce qui appartient à la religion et de marquer les justes bornes qui séparent les droits de l'un et ceux de l'autre. » Et il conclut ensuite, « Sans cela, il n'y aura jamais de fin aux disputes qui s'élèveront entre ceux qui s'intéressent ou qui prétendent s'intéresser d'un côté au salut des âmes et de l'autre au bien de l'État. » Donc, nous allons aborder cette analyse. Nous allons, dorénavant, nous interroger objectivement sur la nature, la fonction, les limites de compétence de ces deux institutions que sont d'un côté l'État et puis de l'autre l'Église. Je pourrais dire les Églises. Il s'agit dans les deux cas, comme l'écrit Locke, il s'agit dans les deux cas de deux sociétés d'hommes. Deux sociétés d'hommes. Deux sociétés instituées volontairement par des hommes qui décident ainsi de s'assembler. Mais la finalité de ces sociétés est radicalement distincte, car elles ont chacune un objet différent. Alors là, je vous invite à regarder le texte qui se trouve page 1, en haut à gauche. Voilà ce que Locke dit de l'État, voilà la définition qu'il va donner de l'État. En haut à gauche, l'État, selon mes idées, est une société d'hommes instituée dans la seule vue de l'établissement, de la conservation et de l'avancement de leurs intérêts civils. Vous voyez, cette définition, elle est très très importante. Et ensuite, Locke explique ce qu'il entend par intérêt civil. J'appelle intérêt civil la vie, la liberté, la santé du corps, et puis ensuite, au fond, tout ce qui relève de la propriété. Voilà, vous avez là la définition de l'État. Et puis, il va procéder de la même façon pour définir l'Église, plus loin. Alors là, vous regardez le texte qui se trouve en bas sur la colonne de droite. Vous voyez, plus loin. Examinons à présent ce qu'on doit entendre par le mot d'Église, par ce terme. J'entends une société d'hommes, où il reprend la même formule, une société d'hommes qui se joignent volontairement ensemble pour servir Dieu en public et lui rendre le culte qu'ils jugent lui être agréable et propre à leur faire obtenir le salut. Voilà. Ces deux définitions sont essentielles. À la limite, tout va découler de ces deux définitions. C'est-à-dire que toute l'argumentation de Locke dans la lettre sur la tolérance va reposer sur l'examen rigoureux de ces deux institutions, de ces deux sociétés. Et il faudra toujours avoir à l'esprit la séparation qui existe entre elles. C'est-à-dire qu'au lieu de fonder, vous voyez, la tolérance sur la liberté de conscience à la façon de Bayle, donc Locke va montrer que la tolérance est ce qui résulte de la séparation objective qui existe entre les deux sociétés, entre l'État et l'Église, entre le domaine politique et civil qui relève de l'État et le domaine religieux qui relève de l'Église. Vous voyez, c'est en déterminant, pour reprendre la formule de Locke, c'est en déterminant avec toute exactitude possible, hein, la nature du bien spécifique que chacune de ces sociétés d'hommes cherche à préserver, eh bien qu'on pourra délimiter leur sphère de compétences. Les deux sociétés, on le voit, elles ont en commun de préserver un bien. Et c'est ce bien qui est la raison d'être de leur institution. Mais, soyons clairs, encore une fois, il ne s'agit pas du même bien dans les deux cas. Les biens que l'État a pour charge de préserver, ce sont, on l'a vu, les intérêts civils des individus, que Locke a énuméré tout à l'heure. Ces biens sont aussi nommés par lui les biens temporels. Pourquoi les biens temporels? Parce qu'ils regardent la vie ici-bas, la vie mortelle, dont nous avons l'expérience sur cette terre. Et ces biens, en ce sens, se distinguent du bien spirituel que constitue le soin des âmes. Voilà, ça c'est le bien spirituel, c'est le soin des âmes. Alors le soin de l'âme est d'une nature radicalement différente, bien sûr, puisque, comme nous l'avons vu lors de la première séance, il n'appartient qu'à l'homme seul de se préoccuper du salut de son âme. C'est là un soin qu'il ne peut confier à personne. Alors qu'il en est tout autrement, bien sûr, des intérêts civils. C'est pour préserver leurs intérêts civils, c'est-à-dire leur vie, leur liberté, leur propriété, que les hommes consentent à obéir à l'État. C'est-à-dire qu'ils lui ont confié la mission de les protéger. Et c'est la raison pour laquelle l'État a autorité pour promulguer des lois civiles. Donc on voit par là que, et ça c'est une chose je pense qu'il faut bien remarquer, on voit par là que l'État et l'Église ne sont pas institués de la même manière, même si leur existence résulte dans les deux cas d'une association volontaire. En se rassemblant en Église, les hommes ne confient pas à des évêques et à un pape l'autorité de commander à leur foi. Effectivement, ici, il est clair que Locke se sépare de la conception catholique de l'Église. Les hommes ne confient pas à des évêques, à un pape, l'autorité de commander à leur foi. Ce rassemblement, que l'on appelle l'Église, n'a d'autre but que de rendre un culte à Dieu en public et de donner ainsi plus de force à leur engagement spirituel. Donc l'Église est une communauté spirituelle qui n'a d'ailleurs d'existence et de validité que par la libre adhésion de ses membres. Et cette adhésion, j'insiste, elle est volontaire. Elle est volontaire, c'est-à-dire qu'elle peut toujours être mise en cause. Aucun croyant n'est assigné par avance à une Église parce que ses ancêtres, parce que ses parents y appartenaient. L'appartenance religieuse, vous allez voir, Locke y insiste, l'appartenance religieuse, elle est fondée sur une libre adhésion. Et elle n'est pas fondée sur un quelconque enracinement culturel. Je lis un passage, encore une fois, revenez ici au texte, page 1, colonne de droite en bas, juste après la définition de l'Église. Je lis un court extrait. Je dis que c'est une société libre et volontaire, puisqu'il n'y a personne qui soit membre né d'aucune église. Il n'y a personne qui soit membre né d'aucune église. Autrement, la religion des pères et des mères passerait aux enfants par le même droit que ceux-ci héritent de leur bien temporel. Et chacun tiendrait sa foi par le même titre qu'il jouit de ses terres, ce qui est la plus grande absurdité du monde. Vous voyez qu'ici, ce que dit Locke est, je dirais, très intéressant parce qu'il s'écarte de toute définition sociologique de la religion, toute définition culturaliste de la religion. Aujourd'hui, on présente assez volontiers la religion comme un fait culturel. On parle souvent d'un fait religieux. Bien, il n'y a pas de fait religieux. Si on a bien compris que l'essentiel de la religion, c'est l'adhésion volontaire du croyant dans un rassemblement avec les autres. Vous voyez, il n'y a pas de frais, il n'y a pas de faits religieux. Rappelez-vous ce que nous disions de la vraie religion, selon Locke, dans la dernière séance. La vraie religion, disait-il, elle